Chapitre 5. Le style. Imagination riche et active, sensibilité vive et étendue, pensée claire et libre, est-ce assez pour faire un grand poète? Non, il y faut encore la mise en œuvre, l'expression par le langage, le style. Sous ce rapport, la supériorité de La Fontaine n'a jamais été contestée. Si la perfection de l'œuvre littéraire comme celle de l'œuvre d'art consiste dans l'appropriation exacte de la forme au fond, dans l'irréprochable adaptation du moyen d'expression à la chose exprimée, La Fontaine est de tous les poètes français celui qui l'a le plus fréquemment atteinte. Les fables, ce ramas de chefs-d'œuvre, comme disait Voltaire, un peu dépité de n'y pouvoir mordre, contiennent à elles seules, peut-être, un plus grand nombre de morceaux complets qu'il ne serait possible d'en recueillir chez tous les autres ensemble. Par morceaux complets, nous entendons une œuvre dans laquelle la mise en scène, les caractères, l'action, le dialogue, le langage, le rythme, présentent à la fois, dans une irréductible et harmonieuse unité, la même justesse expressive, ne laissant place ni à une incertitude, ni à un regret. C'est dire que, dans notre littérature, personne n'a mieux connu ni mieux pratiqué son métier d'écrivain, le connaissant d'une science si intime, le pratiquant d'une si merveilleuse habileté, que cette science devient naïve et cette habileté spontanée. Quand on voit le style naturel, on est tout étonné et ravi, car on s'attendait de voir un auteur et on trouve un homme, disait Pascal. C'est la joie qu'on éprouve en sentant si peu, dans ces insignes chefs-d'œuvre, les procédés littéraires. Aucun effort dans l'arrangement, aucune affectation dans les termes, nulle recherche d'antithèses ingénieuses ni d'effets imprévus, pas de rhétorique inutile, ni d'amplification pédante, ni d'éloquence intempestive. C'est le comble de l'art qui, n'empruntant rien qu'à la vérité, semble la nature même. Ce style est en effet si savamment simple que par une exception rare dans notre littérature aristocratique, c'est presque le seul qui soit également compris de tous les Français, qui charme également leur oreille et leur esprit, ravissant les lettrés sans surprendre les ignorants, accueilli du peuple comme de la bourgeoisie, intelligible aux enfants comme aux vieillards. Ce n'est pas du premier coup, nous l'avons déjà indiqué, que La Fontaine entra en possession de cet instrument incomparable, si souple et si compliqué, empruntant d'une part par une étude plus libre au fond national injustement délaissé et au fond antique étroitement exploré, des matériaux extraordinairement variés, et d'autre part opérant les fusions de ces matériaux disparates avec une sûreté et un tact inattendus. Il hésita plus d'une fois, il tâtonna longtemps. Sainte-Beuve dit qu'il y a un La Fontaine avant Boileau et un autre après Boileau. Il y a surtout un La Fontaine avant Fouquet et un La Fontaine après Fouquet, c'est-à-dire à partir du jour où il se trouva en contact assidu avec les lettrés parisiens, notamment avec Molière. Toutefois, en arrivant chez Fouquet en 1657, c'était déjà un écrivain expérimenté et personnel. Alors que le futur auteur des satires, âgé de 21 ans, n'en était pas encore à ses débuts. L'alexandrin d'Adonis et de Climène, ondoyant et souple, d'une allure aimable et familière, d'une coupe libre et variée, qui sera plus tard l'alexandrin d'André Chénier et d'Alfred de Musset, ne ressemble en rien à l'alexandrin, monotone et dur, tel que l'établira Boileau, et toutes les excommunications de son jeune mentor ne forceront jamais La Fontaine à s'en priver. C'est le vers qu'on retrouvera en tirade continue dans le discours à Madame de la Sablière et dans l'épître à Huet ou mêlé à de petits vers dans les fables et dans les contes. Il est singulier que Taine, emporté par son violent ressentiment contre le grand vers classique, ait méconnu la valeur de l'alexandrin de La Fontaine. Sainte-Beuve, homme du métier, a été plus clairvoyant et plus juste. C'est sur un autre point que, bientôt après, Boileau fut sans doute utile à son vieil ami. Il ne dut pas, en effet, être des derniers à l'encourager dans son admiration encore indécise pour les écrivains sobres et précis, pour Terence et pour Horace, à lui apprendre à se contenir dans la composition et dans le développement, à peser les mots plus qu'à les multiplier. La Fontaine put profiter, à cet égard, de ses conseils. Pour le reste, il n'en fit qu'à sa tête et fit bien. Il avait compris, après son premier succès, que l'imitation littérale de Marot était une impasse. Il sortit donc de l'archaïsme et n'y revint que par hasard. Mais, en se délivrant de l'archaïsme, il ne rompit pas, comme ses amis, avec la tradition. Sans fracas, sans protestation ni gémissement, sans prendre, vis-à-vis des puristes forcenés, les attitudes tragiques des survivants du XVIe siècle, Scipion Duplex ou Mademoiselle de Gournay, ou des descriptives attardées telles que Saint-Amand et Desmarets, il n'en demeure pas moins, autant qu'eux, avec plus de goût et de tact, attaché à la vieille langue. Il sourit aux puristes, il discute avec eux, il profite de leurs analyses, il ne les suit pas. Marot, Rabelais, Bonaventure, Amyot, Montaigne n'en restent pas moins ses conseillers habituels. Ce ne sont pas seulement des sujets qu'il leur emprunte, ce sont surtout des termes populaires et vivants, des épithètes colorées, des expressions vives, des proverbes, des tournures de phrases, des alliances de mots. Il s'incline humblement devant les orateurs solennels aux vastes périodes, devant les philosophes austères aux froides abstractions. Il n'essaye point d'entrer en lutte avec de si graves personnages, mais il continue, comme avaient fait nos pères, à faire marcher, d'un pas lent et sûr, sa phrase nette et claire, le plus souvent courte, toujours bien articulée, et à puiser ses mots, non dans les dictionnaires, mais sur la bouche même de tous les personnages qu'il fait agir, courtisans, chicaniers, savants et rustres. C'est presque lui seul, en somme, lorsque Molière a disparu et quand le Racine des plaideurs a transigé, qui garde utilement, vis-à-vis de l'aristocratie littéraire et du pédantisme classique dont le triomphe est assuré, le respect et le culte des libertés de langage pratiquées par le Moyen-Âge et par la Renaissance. Il reprend, avec moins de précipitation et d'ambition, avec plus d'expérience et plus de tact, l'œuvre interrompue de la Pléiade. Il n'hésite pas davantage à reprendre les mots anciens, à employer les mots familiers, plébéiens, techniques, à en forger de composés, à en fabriquer de nouveaux au besoin. Tu n'oublieras les noms propres des outils de tout métier et prendras plaisir à t'en enquérir le plus que tu pourras et principalement de la chasse. C'est un crime de lèse-majesté d'abandonner le langage de son pays, vivant et florissant, pour vouloir déterrer je ne sais quelle cendre des anciens. Il semble à chaque instant qu'on entende derrière lui la voix encourageante du grand Ronsard, la voix qui lui avait d'avance dicté la formule de son style, si noblement simple, si discrètement poétique. Ni trop haut, ni trop bas, c'est le souverain style, ce fut celui d'Homère et celui de Virgile. On peut voir dans le beau travail de M. Marty Lavaux sur la langue de La Fontaine avec quelle liberté le poète a puisé de tous côtés pour enrichir son vocabulaire. Il est si bien des vieux poètes qu'il connaît, si fortement pénétré de leur langage, que par eux, il remonte plus loin qu'eux. On est stupéfait de retrouver dans Marie de France, dans les Isopées, dans d'autres qu'il ne put connaître, sur les mêmes sujets, des tournures presque similaires, des traits presque semblables, des expressions presque identiques, tant la façon de sentir et de dire est la même. Comme la plupart des locutions proverbiales et des termes vieillis, qu'il a repris ainsi et glissé subrepticement dans la trame facile de ses phrases, sont rentrés dans la langue courante, on ne se rend pas toujours compte aujourd'hui des services inappréciables qu'il nous a rendus. Mais que l'on compare seulement la richesse de son vocabulaire et la variété de ses tours de phrases avec l'étonnante pauvreté de termes et la monotonie d'allures auxquelles se condamnait le purisme environnant, on reconnaîtra vite qu'après Ronsard et avant Victor Hugo, c'est le seul de nos poètes qui ait travaillé efficacement au développement normal de la langue nationale. C'est donc sur un fond tout français, restant français, que se développa chez lui la culture classique. Il aima les latins, les italiens, les grecs surtout, à travers des traductions, avec la tendresse de Racine et de Fénelon, comme il aimait ses chers Gaulois. On s'en aperçoit sans peine au balancement harmonique de sa phrase en prose, aux élégances judicieuses de ses épithètes, aux allures à la fois familières et nobles de ses vers, dans lesquels se succèdent et s'entremêlent, avec une facilité unique, la belle simplicité homérique, la grâce virgilienne, les molles douceurs d'Ovide, la vivacité nette et colorée d'Horace. Sa supériorité fut de s'inspirer partout, sans s'emprisonner nulle part. C'est de 1000 éléments ramassés, sans parti pris, de tous côtés, lentement et naturellement amalgamés dans la gestation d'une longue rêverie, que s'est formé à la fin ce style incomparable, d'une ductilité insaisissable, d'une clarté presque diaphane, d'une sonorité fine et douce, le style des fables. L'effort inutile qu'ont fait tant d'ingénieux écrivains pour l'imiter et pour se l'approprier suffirait à prouver sa complexité et son originalité. Cependant, en apparence, quoi de plus simple, quoi de plus coulant que cette phrase, tantôt resserrée, tantôt large, qui tour à tour sautille et s'arrête, bondit et s'étale avec d'exquis murmures ou d'amples bruissements, poursuivant son libre cours à travers les apartés, les digressions, les rêveries, les sous-entendus, sans se perdre ni s'égarer vers un but bien défini. On dirait la parole même, la parole infiniment nuancée d'un causeur exquis qui se déroule avec toutes les inflexions et les caresses de la voix. La qualité la plus frappante de ce style, qualité de conversation, c'est son mouvement, un mouvement aisé et joyeux qui prend sans effort toutes les allures, emboîte toujours le pas, agile ou pesant, des personnages, accompagne ou précède le mouvement même de l'imagination et de la pensée avec une sûreté et un tact impeccable. Le poète n'était pas arrivé sans peine à cette perfection. Il ne s'y maintenait pas toujours. Il lui fallait pour cela le loisir et l'envie. Un de ses brouillons, celui du renard et du hérisson, ne contient que deux vers de la rédaction postérieure. Il se contentait difficilement et ne se contentait probablement jamais. Dès qu'il écrivait vite ou sur commande, il accumulait les incorrections et les banalités avec un laisser-aller inimaginable. Il faut d'ailleurs se garder de confondre les négligences auxquelles il s'abandonnait en pareil cas avec les libertés volontaires dont il usa de tout temps vis-à-vis de la prosodie, du dictionnaire, de la grammaire. Il professait, à l'égard des règles promulguées, les mêmes sentiments que son arrière-petit-fils Alfred de Musset, un respect ironique et peu de soumission, croyant que la seule règle est de charmer. Rimes insuffisantes, rimes pour l'oreille ou pour l'œil, simples assonances, élisions oubliées, contractions arbitraires, mots forgés et composés, fautes de syntaxe et d'orthographe, on pourrait faire un gros recueil de tous les exemples scandaleux que donne La Fontaine aux apprentis rimeurs. Il va sans dire qu'il use de l'enjambement autant que le cœur lui en dit, et qu'il promène partout la césure avec une désinvolture sans remords. Mais personne n'a jamais songé à lui en vouloir, tant il exécute avec art tous ses tours de passe-passe. Quel artiste en effet, artiste de rythme, artiste de mots. Ses rythmes, il est vrai, sont peu variés. Les strophes régulières, quelles qu'elles soient, l'épouvantent comme des carcans où il serait vite à la gêne. Il ne possède point, d'ailleurs, les vertus musicales qui ont inspiré à nos grands virtuoses lyriques, Ronsard et Victor Hugo, tant de combinaisons nouvelles et puissantes. Il n'a aucun besoin de sonorités retentissantes, ni dans la rime, ni dans le mot, ni dans la cadence. C'est seulement dans le rythme indépendant, dans le déroulement infini des grands ou des petits vers égaux, à rimes plates ou croisées, dans le mélange surtout, dans le mélange capricieux et arbitraire des vers de tailles diverses, surtout de l'alexandrin et de l'octosyllabe, qu'il se sent lui-même et qu'il excelle, parce qu'il n'a là, pour surveillant, que sa rêverie et que son goût. Le vers libre, voilà vraiment son instrument spécial, son instrument réservé, qu'on avait mal manié avant lui, qu'on a pu toucher après lui, sans devenir du coup son plagiaire. Il en tire les effets les plus divers et les plus imprévus, tantôt par l'accumulation des rimes, tantôt par leur dispersion, tantôt par l'enchaînement prolongé des tirades, tantôt par les brisures successives et précipitées des vers, tantôt par la monotonie majestueuse des mesures égales, tantôt par les brusques sursauts du rythme interrompu. C'est toute la liberté de la prose, avec le charme insinuant d'une harmonie continue et d'une cadence doucement changeante, suffisamment marquée par des accords discrets de rimes légères, avec des temps de pause sur les vers graves et expressifs. Quant à son vers lui-même, alexandrin ou octosyllabe, c'est la souplesse même, et ce serait une besogne interminable et puérile d'énumérer les mille manières dont il le coupe et l'accentue, suivant le cas. À la différence de presque tous les poètes, même les plus grands, qui professe, quand il ne l'affecte pas, une prédilection décidée, souvent exclusive, pour une certaine cadence à laquelle une oreille exercée les reconnaît toujours, sa particularité, c'est de n'avoir pas de cadence uniforme et de prendre successivement, on pourrait dire à la fois, tant le passage est rapide, les tons les plus différents. Parcourez deux pages quelconques et vous les entendrez, tour à tour, ces vers agiles et changeants, donner toute leur voix. Ils s'étendent et se prolongent en retentissant comme la trompette épique. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Il sautille et chantonne avec une allégresse comique. Un ânier, son sceptre à la main, menait, en empereur romain, deux coursiers à longues oreilles. Il coule et murmure avec une douceur d'églogue. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Ils s'élancent et déploient leur vol avec l'ampleur de l'ode. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout et rien qu'avec dessein, qui le sait que lui seul, comment lire en son sein? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? Ils rêvent et se plaignent avec la résignation élégiaque. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Et c'est ainsi partout. Ne croirait-on pas entendre tour à tour Marot, Régnier, Molière, Chénier, Ronsard, Hugo, Lamartine, Musset, tant le merveilleux virtuose s'est ingénieusement assimilé tout l'art de ses prédécesseurs, tant il a hardiment pressenti et préparé celui de ses successeurs.